DW. Droits et libertés.
Sur les réseaux sociaux fleurissent des campagnes de propagande qui utilisent de fausses informations, ce qu'on appelle en français « infox » ou de plus en plus couramment « fake news ». Avec la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec le nombre croissant de régimes autoritaires ou en tout cas antidémocratiques, les fake news ont sans doute encore de beaux jours devant elles. Néanmoins, de plus en plus de journalistes prennent conscience du danger de cette malinformation, mésinformation ou désinformation propagée plus ou moins sciemment et qui peuvent devenir des armes redoutables de manipulation des masses. Nous allons donc ouvrir aujourd'hui une petite série d'émissions consacrées à la lutte contre les fake news, du point de vue de journalistes africains, mais aussi de citoyens, en Afrique comme en Europe. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. L'ONG Reporters sans frontières a lancé un appel la semaine dernière en direction des autorités en place dans les pays du Sahel pour leur demander de ratifier une déclaration dans laquelle elles reconnaissent les droits des journalistes, notamment celui d'exercer librement leur métier, d'accéder aux informations et d'en rendre compte publiquement. Pour revenir à la source, j'ai donc décidé d'interroger quelqu'un qui se charge de former des journalistes dans une école au Sénégal. Mon invité cette semaine pour réfléchir aux fausses informations, à leur impact sur les sociétés et aux moyens qu'ont les journalistes pour les contrer. Mon invité donc s'appelle Hamadou Tidiane Sy. Il est le directeur de l'EGICOM, l'école supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication à Dakar, et le fondateur du média Westaf.com.
C'est devenu un champ de bataille géopolitique dans lequel la désinformation joue un rôle et est utilisée comme arme. Je crois que c'est quelque chose qu'on constate ces dernières années. Ça va des trucs beaucoup plus élaborés à des trucs un peu qui le sont un peu moins, des gens qui le font par allégeance, par affinité, par affection, pensant que voilà, être du côté de la Russie ou du côté de la Chine pourrait libérer certains pays africains du joug des anciennes puissances coloniales. Bon, après, cela dit, il ne faut pas se leurrer non plus. Et quand on dit champ de bataille géopolitique, ça veut dire que les autres aussi font exactement la même chose. Des puissances occidentales qui s'adonnent à ce jeu, qui utilisent la manipulation, la propagande et la désinformation à travers les réseaux sociaux pour soit se faire des alliés, soit pour en discréditer d'autres.
Alors, vous qui participez activement à la formation de jeunes journalistes, comment est-ce que vous les préparez justement à faire face à cette information qui circule de façon un peu anarchique sur les réseaux sociaux et beaucoup plus rapidement que ce à quoi on était habitué dans les médias traditionnels?
Oui, bon, dans la formation, ce qu'on fait, c'est d'abord de faire prendre conscience de l'enjeu autour de la désinformation. Je crois que il y a beaucoup d'activités autour de la désinformation au sein de nos établissements. C'est devenu carrément un champ de recherche aujourd'hui. Nous avons un laboratoire du numérique et des nouveaux médias où on essaye de faire de l'observation sur ces questions. C'est vrai qu'avec très peu de ressources, donc pas par exemple les ressources de l'Africa Center, mais on essaye de voir ce qui se passe. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la réponse à la désinformation. Et la première réponse pour les journalistes, c'est de les former au fact-checking, leur permettre, une fois qu'ils ont vu une information qui leur paraît peu crédible, de pouvoir la disséquer et démontrer, essayer de travailler pour en attester la véracité ou la non-véracité. Donc la formation fact-checking que nous avons introduite dans nos programmes depuis 2015. Et pour la petite histoire, notre établissement, l'EGICOM, est le pionnier en Afrique francophone pour ce qui est de l'enseignement du fact-checking. Mais il faut dire que c'est largement insuffisant parce que les enjeux dépassent nos petits pays. Ce sont des enjeux géopolitiques très, très importants. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris que sur les réseaux sociaux, il est très facile de manipuler des masses et qui malheureusement parfois sont des masses ignorantes, des masses analphabétisées qui pensent que tout ce qu'elles entendent ou voient sur les réseaux sociaux sont vrais. Je crois que l'enseignement, le fact-checking, les cours sur la désinformation, etc., ne suffisent pas pour contourner ou pour endiguer ce fléau qui fait des ravages dans la sous-région.
Certains fact-checkers disent même qu'ils ont l'impression de devoir vider l'océan à petite cuillère, tellement ils ont un travail de Sisyphe. Ils sont confrontés constamment à de nouvelles fausses informations. Et dès qu'on en a vérifié ou contredit une, il y en a beaucoup d'autres qui circulent déjà. Comment faire pour sortir de ce dilemme de la rapidité avec laquelle la désinformation circule et de la lenteur des gens qui prennent le temps de vérifier les informations?
Ça, c'est extrêmement difficile, extrêmement délicat. Je crois que, je dis tout le temps, le fact-checking, c'est plutôt une arme dissuasive qui peut permettre à des politiciens qui veulent être responsables, à des gens qui se veulent responsables, de se dire, bon, voilà, il y a du fact-checking, je fais attention à mes propos. Au niveau interne, au niveau de la classe politique, au niveau de certains acteurs de la société civile, ça peut servir d'arme dissuasive en leur disant, écoutez, ben, si vous dites des choses qui sont erronées, il y a des gens qui peuvent vérifier ce que vous dites et vous apporter la contradiction de manière factuelle, en interne. Mais pour quelqu'un qui est dans la désinformation comme arme de guerre, quelqu'un qui est dans la désinformation avec la ferme volonté de faire de la désinformation, il sait que le fact-checking existe, ce n'est pas le fact-checking qui va le dissuader. Et cela, à partir de ce moment, c'est peut-être utiliser d'autres formes, sensibiliser les citoyens. J'ai une double casquette. L'autre casquette, c'est en tant que fondateur d'Ouestaf News. En ce moment, au niveau d'Ouestaf News, nous avons initié quelques projets qui sont soutenus par des fondations. Et dans ces projets-là, justement, nous faisons avec d'autres partenaires dans la sphère des médias et dans la sphère, justement, des réseaux sociaux. Nous faisons un travail de sensibilisation assez poussé sur ces questions-là. Nous organisons des débats publics, nous faisons diffuser des messages par des radios partenaires sur les questions de désinformation. Il faut l'éducation aux médias. Il faut que chaque citoyen qui est devant une information puisse se dire, est-ce que cette information, c'est vrai? Quel outil j'ai pour décrypter? Je crois qu'à partir du moment où on a une grande masse de citoyens qui, avant de consommer une information et de la prendre comme vraie, la questionnent, se posent des questions, je crois que ce serait un grand pas. Mais encore une fois, n'oublions pas, c'est pas parce qu'il y a des pacifistes qu'il n'y a pas des usines d'armes, c'est pas parce que on dit que la drogue est illégale qu'il n'y a pas des vendeurs de drogue. Je crois que c'est un fléau. La société doit chercher des réponses les plus adéquates possibles, mais je crois que c'est un fléau qui est là pour rester encore un moment.
Est-ce que vous partagez ce constat selon lequel il y a une perte de confiance? Vous avez parlé de la crédulité de l'opinion publique à laquelle on peut remédier grâce à l'éducation aux médias, mais comment rétablir le lien de confiance entre le public et les journalistes qui sont un peu discrédités parce qu'ils ont fait circuler des informations non vérifiées ou parce qu'ils sont ciblés eux-mêmes par des campagnes de désinformation auxquelles les gens croient davantage?
Bon, après ça, je crois que c'est quelque chose avec laquelle il va falloir faire. Moi, en tout cas, mon option, c'est très personnel, je ne sais pas est-ce que c'est l'option la plus pertinente. Je dis aux gens, assurons-nous que tout ce que nous publions sur notre plateforme soit factuel. Ça, je crois que c'est déjà un premier pas. De sorte que quand les gens voient une information estampillée Ouestaf News, ils savent que c'est crédible. Je crois que chaque média a la responsabilité de ne pas céder au sensationnalisme, de ne pas céder aux partis pris politiques, de ne pas céder à la tentation de tout relayer, mais de se dire, voilà, chaque information que moi je prends la responsabilité de diffuser en tant que journaliste dans mon média, je m'assure que l'information est factuelle. Et s'attarder sur quelque chose que les gens ont tendance à oublier, préciser des sources, c'est des basiques du journalisme, de sorte que la personne qui a envie de vérifier peut vérifier, c'est que cette information, il y a la solution. Après, maintenant, vous avez un combat entre le mal et le bien qui va l'emporter. Je crois que, oui, les forces du mal vont continuer à diffuser de l'information, de la désinformation, parfois à vouloir même discréditer des journalistes crédibles pour les affaiblir. Mais oui, leur céder complètement le terrain et dire que oui, ils sont tout puissants, nous, on ne peut rien faire, je crois que c'est faire aveu d'échec et peut-être même dire que voilà, ce serait la mort du journalisme. Il faut qu'on montre qu'il y a des journalistes sérieux qui travaillent et qu'entre nous, en tout cas nous, à Ouestaf, c'est notre option avec cette synergie des médias pour la lutte contre la désinformation, dire qu'il y a des médias sérieux, dire qu'il y a de l'information sérieuse et également, à côté de ce qu'ils font pour vouloir discréditer les journalistes, nous faisons un petit travail de communication autour de notre travail pour montrer que nous, il y a encore du journalisme crédible, il y a encore des journalistes qui travaillent selon les anciennes bases et qui refusent de céder la part à la désinformation, au sensationnel, et qui font du travail sérieux. Après, bon, le reste, c'est des phénomènes de société, mais avec le temps, je suis absolument certain qu'on devra, si les autorités veulent prendre à bras le corps cette question, il faudra que, elles permettent à tout journaliste, à tout citoyen d'accéder à l'information publique de manière beaucoup plus facile. Donc, c'est que dire voter des lois sur l'accès à l'information. Et deuxièmement, faire de gros efforts pour l'éducation aux médias. Mais là encore, il faudrait que les hommes politiques soient sincères, puisque parfois ce sont eux-mêmes qui ont besoin des masses analphabètes pour mieux les manipuler et mieux arriver à leur destin politique.
Ce qui ouvre encore un tout autre champ de discussion qui pourrait durer et durer. Mais merci beaucoup déjà d'avoir répondu à ces questions.
Merci.
Au revoir.
Allez, au revoir.
Merci à Amadou Tidiansi, directeur de l'EGICOM et créateur du média westaf.com pour cette première émission consacrée aux fake news. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez la réécouter, la commenter ou la partager, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.